Voilà, lisons ensemble 1 Chronique 29 à partir du verset 10. David, le roi David, bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, Béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tous. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture, aussi je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur, et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici, t'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Voilà. On s'arrête là. S'il s'agit donc du roi David qui s'adresse à Dieu, il sait que Dieu est le Dieu de ses pères. C'est donc un héritage spirituel. Il a hérité de ses pères la foi dans le Dieu vivant et vrai. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a fait des préparatifs pour la première construction, pour la construction du premier temple d'Israël à Jérusalem. Et Dieu lui a dit, ce ne sera pas toi qui me bâtiras ce temple, ce sera ton fils. Israël avait passé ses 40 années dans le désert et Dieu leur avait promis cette terre de Canaan, d'Israël. Israël y est entré, chacune des tribus. Des tribus a reçu le territoire qui lui était échu en partage selon la volonté de Dieu. Maintenant que le peuple s'est stabilisé dans le pays, maintenant il n'est plus question de porter dans le désert ou de se déplacer avec le tabernacle qui donc symbolisait la présence de Dieu au milieu du peuple. Le peuple est stable dans son pays et le roi, inspiré par Dieu, s'est dit maintenant il faut bâtir une maison à Dieu dans notre pays. Une maison où on pourra, un temple, là où réside une divinité à qui l'on vient donc apporter sa louange, son adoration, ses offrandes. Le temple d'Israël. Il a fait les préparatifs pour que son fils Salomon puisse bâtir ce temple. Et il fait le constat suivant. Il dit que tout appartient à Dieu. Dans la réalité, il se rend compte que tout ce qu'il a pu préparer pour construire ce temple, dans la réalité, tous ses moyens, toutes ses possibilités, tous ses matériaux, il parle d'or, d'argent et de tout ce qui était nécessaire pour la construction de ce temple. Eh bien, tout cela n'est possible que par la volonté de Dieu lui-même, car tout appartient à Dieu. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Béni sois-tu, dit-il, d'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père Israël. Il dit à toi la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, et car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient à toi. Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Nous n'emmènerons rien avec nous. Tout appartient à Dieu. Nous sommes venus nus sur cette terre. Nous quitterons nus, c'est-à-dire nus sans emporter avec nous les richesses que nous aurions pu avoir durant notre vie terrestre. Il dit tout t'appartient. À toi le règne. Tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est de l'Éternel que viennent la richesse et la gloire. L'Éternel domine sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Et là, ainsi, c'est le constat que nous devons faire aussi en tant qu'enfants de Dieu. C'est nous rendre compte que nous ne pouvons pas nous glorifier de quoi que ce soit, car tout nous vient de Dieu. Un verset biblique dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ? » C'est-à-dire comme si ce n'était pas Dieu qui, dans sa providence, nous l'avait accordé. Et ça nous gardera de l'orgueil, ça nous gardera de la vanité, si nous savons toujours reconnaître que tout nous vient de Dieu et que c'est à lui que nous devons donner gloire. Alors, le titre de mon message ce soir, il est un peu long ce titre. Il s'intitule « La révélation du royaume des cieux sur la terre ». La révélation du royaume des cieux sur la terre. 1 Corinthiens 10, 26 nous dit « Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme ». Dieu a un royaume, il en est le roi. Et dans le royaume, il y a des sujets. Et c'est le roi qui dicte ses règles et ses lois. Et les sujets sont là pour s'assurer que tout ce que le roi décide est mis en application dans le royaume du roi. Et Dieu est un roi. Il a donc un royaume. Il règne dans son royaume. Et concernant son royaume, on va regarder ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il a précédé dans son ministère, il a précédé le Christ. Il s'appelait Jean-Baptiste, Jean le Baptiste. Il avait 6 mois d'écart avec Jésus. Humainement parlant, il était le cousin du Christ sur le plan humain et terrestre. Il était son cousin, il avait 6 mois de plus que lui en termes d'âge. Et donc, il était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il était dit ainsi, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Il s'agissait donc de Jean le Baptiste qui devait débuter son ministère avant que Jésus se manifeste pour dire au peuple d'Israël, après toutes ces années d'attente, le Messie est enfin arrivé. Le Sauveur du monde est là. Il est ainsi là. Mais il va dire quelque chose quand il va commencer son ministère. En Matthieu 3, 1 à 3, je vous ai lu en fait le verset 3 de Matthieu 1, 3, 1 à 3. Et je vous lis le premier verset et le second. Il est dit, « En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est ainsi qu'il a commencé son ministère. C'est la première information qu'il a annoncée, qu'il a donnée. Il a dit « Repentez-vous ». Pourquoi ? Pourquoi se repentir ? Parce qu'il dit « Parce que le royaume des cieux est proche ». Le royaume des cieux est proche. Ce qui veut dire qu'au moment où il est en train de donner cette information, le royaume des cieux n'était pas là. Le royaume des cieux n'était pas encore venu aux hommes. Il dit « C'est quelque chose qui est en train d'arriver ». Et ça arrive très rapidement, c'est proche. Donc il faut se repentir en urgence parce qu'il y a un événement particulier qui arrive. C'est le royaume des cieux. Et vous savez que quand, c'est quelque chose que j'ai déjà répété régulièrement ici, quand Dieu insiste, lorsqu'il dit plusieurs fois la même chose, c'est parce que ça a une importance capitale, qu'il veut attirer notre attention, qu'il veut que nous en prenions conscience de la chose. C'est une expression que Jésus-même va utiliser lui aussi en débutant son ministère. Après Jean-Baptiste, il est dit concernant Jésus, Matthieu 4, 17, « Quand il se manifeste, il a été vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a administré le baptême par immersion, il en est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, il a été oint de la puissance du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint l'a emmené dans le désert parce qu'il fallait qu'il puisse défaire ce que Satan avait fait dans le jardin d'Éden. » Lorsque Satan était venu vers Adam et Ève, et surtout vers Ève, premièrement, pour les pousser à désobéir et à manger le fruit défendu. Alors Jésus devait venir pour réécrire l'histoire et administrer au diable une grande défaite. Et le Saint-Esprit l'a emmené dans le désert pour cela. Pendant 40 jours, 40 nuits, il va jeûner et prier et ensuite il sera confronté au diable. Et naturellement, il en sortira vainqueur parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le grand je suis, il est l'alpha et l'oméga, il est le tout-puissant, il est le glorieux. Mais lorsque sur la terre en tant qu'homme, après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, après avoir défait le diable dans le désert, il lui-même commence à se manifester en tant que Messie venu sur la terre. Alors à ce moment, il est dit, dès ce moment, Matthieu 4, 17, Jésus commença à prêcher et à dire exactement la même chose que ce qu'a dit Jean le Baptiste. Il dit « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il dit exactement la même chose que Jean le Baptiste. Jésus ne se permettrait pas de et ne peut pas dire des choses à la légère. Il ne dit rien qui soit léger, rien qui soit inutile, rien qui soit futile, rien qui n'est pas de Harishakanda. Rien, je perds mes mots, je vais les retrouver. Rien qui n'est pas d'importance. Rien qui n'est pas d'importance. Jésus ne peut rien dire qui n'est pas d'importance. Il dit exactement ce que dit Jean le Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et souvenons-nous, dans un autre verset, il est dit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. » Donc cela revêt une importance capitale. La parole de Dieu concernant Dieu lui-même, en le psaume 53, 3, nous dit ceci. « Dieu du haut des cieux. » Dieu siège là où il a voulu siéger, parce qu'il est souverain. Personne ne lui dicte ce qu'il doit faire. Il a décidé de siéger du haut des cieux. Il dit, « Dieu du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Alors, lorsqu'il est dit que Dieu du haut des cieux, et d'autres versions disent que Dieu se penche du haut des cieux pour regarder, c'est une expression naturellement. Dieu n'a pas besoin de se pencher. Il voit tout parfaitement, sans avoir à se déplacer, sans avoir besoin d'utiliser de longue vue, de jumelles, parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout parfaitement, il voit tout parfaitement. Mais on voit bien qu'il est dit du haut des cieux, c'est-à-dire là où se trouve son royaume. C'est là où il est, le Dieu suprême, là où se trouve son royaume, du haut des cieux. Et Jésus venant sur la terre, qui est l'expression même parfaite de la personne du Père, parce qu'il avait dit à Philippe, un de ses disciples, de ses apôtres, effectivement, qui voulait voir le Père, demandant au Christ, « Mais montre-nous le Père !» Et il avait répondu, Jésus, à Philippe, « Mais il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. » Parce qu'il est l'image parfaite du Père. Tout ce qu'il représente, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il manifeste, c'est la personne du Père qui est venue se manifester en face des hommes en tant qu'homme. Et c'est pour ça que lorsque les pharisiens, les scribes, l'ont livré à Ponce Pilate et qu'il a cette conversation avec Pilate, et Pilate lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? Es-tu le roi des Juifs? De quoi t'accuses-t-on? Pourquoi est-ce qu'on m'a envoyé? Pourquoi est-ce qu'on t'a livré à moi? Es-tu le roi des Juifs? Jésus va répondre à Pilate. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit en Jean 18, 36, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Mon royaume n'est point ici-bas. On voit bien que le royaume dont il est question n'est pas terrestre, n'est pas de la nature terrestre. Ce royaume-là n'est pas sur la terre. Du moins au moment où ces événements se passent, où Jean le Baptiste a dit « le royaume des cieux est proche », où Jésus-Christ même a dit « le royaume des cieux est proche », en tout cas, à ce moment-là, le royaume des cieux n'était pas encore là. Et Jésus l'a confirmé, il a confessé, son royaume n'est pas de cette nature humaine, terrestre, et en ce qui concerne la création que Dieu donc a créée. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Alors, ce royaume-là, s'il n'est pas d'ici-bas, on peut se poser la question, mais comment y accéder? Puisque c'est là que Dieu réside, dans le royaume des cieux. Pouvons-nous y accéder à ce royaume? Et est-il dans notre intérêt d'y accéder à ce royaume? Et naturellement, nous devons chercher à y accéder. Il est dans notre intérêt d'y accéder, parce que dans ce royaume, il y a Dieu lui-même. Il est présent, il est permanent. Et là, s'il y a Dieu, nous avons donc dans ce royaume la sécurité. Nous avons l'assurance, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons la vie éternelle dans ce royaume-là. Et c'est ce qu'il nous faut. Mais attention, Dieu nous avertit en Matthieu 7, 21. Il dit que même des personnes qui pensent faire partie de ce royaume n'y font pas partie. Il dit, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, ce sont des personnes qui s'adressent à Dieu, ce sont des personnes qui prient, ce sont des personnes qui se disent être croyantes, ayant la foi. Parce que ces personnes expriment leur foi en s'adressant à Dieu. « Seigneur ». Et le Seigneur dont il est question, c'est Jésus, parce que Jésus dit « ceux qui me disent ». C'est bien à Jésus qu'ils s'adressent, ces personnes. Ils me disent, ils m'appellent. C'est ce qu'il est en train de dire. Ceux qui m'appellent, Seigneur, Seigneur. Et il dit pourtant, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils m'appellent Seigneur. Ils reconnaissent que je suis le Seigneur. Ils confessent, ils attestent que je suis Seigneur. Mais pourtant, tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il ajoute au verset 22, « Plusieurs me diront en ce jour-là, il y a un jour où tous les hommes doivent rencontrer Dieu, croyants ou non-croyants. Chrétiens ou non-chrétiens, tous rencontreront Dieu dans une autre dimension que celle que les hommes ont toujours connue dans la vie terrestre. La vie terrestre, c'est la vie terrestre. Il y a autre chose qui est la vie éternelle, une éternité de perdition ou une éternité de gloire, de salut dans la présence de Dieu. Il dit « plusieurs me diront en ce jour-là ». Le jour où les hommes rendront compte à Dieu. Et il dit, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Même des personnes qui pouvaient être dans des ministères, dans des églises, dans des communautés chrétiennes. Nous avons prophétisé en ton nom, Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, Seigneur, Seigneur. Mais nous avons reconnu que tu es Seigneur. Nous avons reconnu que c'est toi, Jésus. Nous avons même prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons par ton nom, comme il est dit au nom de Jésus. Il est dit par ton nom, c'est-à-dire ils ont fait, comme Dieu le dit, au nom de Jésus-Christ. Et nous avons fait beaucoup de miracles par ton nom, au nom de Jésus-Christ. Mais pourtant, le Christ dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, Jésus dit clairement que c'était des ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire que ce qu'ils pratiquaient n'était pas dans la vérité, la sainteté et ni pour la gloire de Dieu. Les ouvriers d'iniquité qui utilisaient le nom de Christ, qui pensaient faire partie du royaume des cieux, qui pensaient qu'une place leur était réservée dans le royaume des cieux. Et Jésus leur dira, mais je ne vous ai jamais, jamais connu. Jamais connu. Souvenez-vous qu'un jour, les disciples du Christ ont voulu savoir comment prier. Ils ont voulu que Jésus leur apprenne à prier. En Matthieu 6, 9, 10. Et Jésus leur répondra favorablement. Merci Seigneur, quand Dieu nous répond favorablement. Dieu nous répondra d'ailleurs, excusez-moi, je vais le dire. Dieu nous répondra toujours favorablement. En fait, Dieu nous répond toujours favorablement. Quand bien même ça ne correspond pas à ce que nous, nous souhaiterions avoir comme réponse. Du moment où c'est une réponse de Dieu, du moment où c'est vraiment Dieu qui nous a répondu, c'est favorable. Parce que quand bien même il nous dirait « Non, ne va pas par là, ou je n'ai pas prévu ce chemin pour toi, ou je n'ai pas prévu de bénédiction dans ce chemin », c'est toujours pour notre bien, c'est toujours parce qu'il nous aime, c'est toujours pour nous garder, nous prévenir. Si je prie pour une maison, Dieu sait que ce n'est pas le moment pour moi d'avoir cette maison. Ce n'est pas favorable en ce moment. Moi, je pense, peut-être que là où j'habite, il manque de place. Et Dieu me dit de lui faire connaître mes besoins. Alors, je lui fais connaître mes besoins. Je veux de cette maison absolument. C'est maintenant. Et quand je prie, il me dit non. Alors, je peux le prendre de manière négative. Mais dans la réalité, c'est une réponse favorable. Tant que Dieu répond, ce sera toujours favorable. Parce qu'il est en train de nous guider. Il est en train de nous montrer le chemin que l'on doit suivre. Et si ça ne me plaît pas, je devrais dire, Seigneur, aide-moi à marcher par ton esprit, afin que quelle que soit la direction que tu me montres, cela puisse réjouir mon cœur, parce que je me dirai, oh, mon Père me guide, Jésus-Christ a les yeux sur moi, le Saint-Esprit m'enseigne et il me parle. Donc c'est favorable. Que ça soit pour moi négatif ou positif, c'est toujours favorable. Et donc, il leur dit, voici comment prier, c'est-à-dire, voici absolument les choses sur lesquelles vous devez vous focaliser quand vous vous adressez à Dieu. Quand vous vous adressez à Dieu, il y a des choses futiles peut-être que vous allez demander, mais moi, je vais vous montrer ce qui est essentiel afin que vos prières soient des prières qui soient vraiment agréées par Dieu. Et dans tout ce qu'il faut demander à Dieu, il dit à ce moment dans les versets 9 et 10, il dit ainsi, quand nous nous adressons à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ton règne vienne. C'est-à-dire que ton royaume vienne, puisqu'il est le roi et qu'il règne dans son royaume. Lorsqu'on dit que ton règne vienne, ça veut dire que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne. Ça veut dire que c'est une chose essentielle que nous puissions désirer le royaume de Dieu et sa justice. Nous devons désirer cela. Désirer le royaume de Dieu et sa justice. Alors, nous allons voir quelques valeurs donc du royaume des cieux. Ceux qui veulent et qui voudront prendre part à ce royaume ne doivent pas pratiquer de fausses justices consistant à se glorifier. On peut vouloir pratiquer la justice, et il faut vouloir pratiquer la justice, mais cela dépend de la manière dont nous allons pratiquer donc cette justice. En Matthieu 6, 1, il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Si lorsque je fais quelque chose, le but, l'objectif, c'est de me montrer, de me mettre en avant, de m'élever sur un piédestal, alors ce que je fais, excusez-moi, comme le but est d'attirer l'attention sur moi, si on m'acclame, si on vient me glorifier, si on vient me faire de la louange, si on vient me louer pour ce que je fais et tout, mais parce que je le fais dans ce but-là, attention, parce que je le fais dans ce but, je le fais dans le but de recevoir les hommages des hommes et que les hommes viennent effectivement vers moi, mais c'est ce que je recherche, et qu'on vient m'élever par rapport à ce que je fais, Dieu dit, j'ai déjà ma récompense. Donc, dans le royaume des cieux, il n'y aura pas de récompense pour ce que je fais. Puisque je cherche déjà à avoir ma récompense et je l'obtiens. J'ai déjà ma récompense. Là, c'est une fausse justice. Je cherche ma récompense, je l'obtiens. Dieu dit, dans le royaume des cieux, ce royaume qui doit venir, il n'y aura aucune récompense pour moi. Nous devons savoir attendre que Dieu nous réponde et qu'il nous accorde toutes les bénédictions dont nous avons besoin. C'est pour ça que nous devons persévérer, bien-aimés. Persévérer dans la prière, aller dans la présence de Dieu, chercher ce dont nous avons besoin dans la présence de Dieu et savoir attendre. Nous avons plusieurs témoignages, que ce soit dans la parole de Dieu ou dans la vie quotidienne des personnes que nous côtoyons, des personnes qui ont dû attendre des années pour voir une bénédiction arriver. Dieu entend la prière, mais il y a un temps favorable. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose. Donc, sachons attendre si la bénédiction tarde. Un verset le dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Elle arrivera assurément en son temps, parce que Dieu n'est jamais en retard. Et Dieu, Jésus nous a dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Le Père de gloire, c'est notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons tout en Christ. Nous avons tous les avantages de notre côté. Tous les avantages, c'est nous qui les avons. Nous, Église du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ne pratiquons pas de fausse justice, parce qu'à ce moment, dans le royaume des cieux, nous n'aurons pas de récompense. Genèse 15:1, concernant Abraham, dont le nom sera transformé en Abraham, parce qu'il est dit c'était le père de la foi, qu'il croyait, qu'il avait confiance en Dieu, et de qui Dieu même dira, c'est mon ami, c'est l'ami de Dieu. Dieu va lui dire ceci un jour, après qu'il ait été fait la guerre pour délivrer son neveu Lot, c'est Dieu qui lui a donné cette victoire. Après ces événements, Genèse 15:1, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Et pour tous les enfants de Dieu, Dieu dit la même chose. Dieu aime tous ses enfants. Dieu veut bénir tous ses enfants de la même manière. Et à tous ses enfants, chacun des enfants de Dieu, du moment où nous avons confiance en Dieu, du moment où nous sachons attendre que la bénédiction vienne de Dieu, que nous n'allions pas chercher une bénédiction qui n'est pas de lui. Alors nous pouvons nous approprier ce verset. Nous pouvons nous entendre dire par Dieu, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande, parce que tu as su me faire confiance, parce que tu as su persévérer, parce que tu as su attendre lorsque je t'ai demandé d'attendre et que tu continues à me prier. Et même à travers des épreuves difficiles, à certains moments, tu continues à me faire confiance. Ta récompense sera très grande. Non seulement ici-bas, mais dans le royaume des cieux. J'ai de grandes récompenses pour toi. De très grandes récompenses que le monde ne peut pas donc te donner. Et ensuite, Jésus, il donne plein d'exemples. Je passerai sur tous ces exemples. Par exemple, quelqu'un qui fait l'aumône, mais la personne fait l'aumône pour montrer qu'elle donne, qu'elle fait l'aumône. Donc tout ça, la personne reçoit déjà ses récompenses sur la terre. Même au niveau de la prière, même au niveau de la prière, il y a des personnes qui peuvent prier. Ce que faisaient les scribes et les pharisiens, ils se mettaient debout là au coin des rues. Et puis, ils faisaient de longues prières pour qu'on puisse voir qu'ils sont pieux, ils sont consacrés. Voilà, ce sont des hommes de Dieu. Et à travers ça, dans la réalité, Dieu dit, mais ce n'est pas Dieu qu'il cherchait. Il cherchait toujours à ce qu'on puisse les élever sur un piédestal, qu'on puisse les honorer, les respecter, et même à travers la prière. Et un pasteur a un jour donné ce témoignage, et je m'en rappelle toujours, il dit que dans sa communauté, il y avait un frère qui priait extraordinairement bien. D'extraordinaires prières, de belles prières. Cela n'est pas interdit de bien prier, au contraire. Ce qui compte, c'est la vérité et la sincérité lorsqu'on s'adresse à Dieu. Dieu sonde les reins et les cœurs. Si ce qu'on dit est vrai, Dieu agrée, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Mais ce frère, il ne priait pas dans ce sens-là. Il priait extraordinairement bien. À tel point que le pasteur, dans son message, il disait qu'on pourrait comparer ses prières à l'épître aux Hébreux. Voilà, c'est pour vous dire combien il priait bien. Et puis malheureusement, dans l'intimité, dans sa vie privée, eh bien, il ne reflétait pas donc sa manière de prier dans l'église. Et un jour, un de ses enfants, où il était en train de se disputer, parce que c'était un homme violent, il se disputait avec son épouse, et l'enfant a décroché le téléphone. Il n'a pas vu que son enfant a décroché le téléphone. Et l'enfant a appelé le pasteur, et l'enfant a mis le combiné pour que le pasteur puisse entendre ce qui se passe dans son foyer. Et ce frère qui priait extraordinairement bien, on l'entendait là, maintenant, en train de gueuler, de crier, de dire des choses mauvaises. Lorsqu'il priait, c'était pour avoir sa récompense, pour se faire voir. Il avait déjà sa récompense. Mais dans le ciel, il n'y avait aucune récompense qu'il attendait, parce qu'il avait déjà sa récompense dans sa communauté. Certainement, on le flattait, on le félicitait pour ses prières extraordinaires. Non, tout ce que nous faisons, ça ne doit pas être pour notre gloire, car Jésus, Dieu le Père, Jésus-Christ, l'Esprit Saint, qui est le même Dieu, a dit que jamais sa gloire, il ne la donnera à un homme, ni son honneur aux idoles. Donc, si nous cherchons à donc prendre la gloire de Dieu pour nous, ça ne marchera jamais et Dieu ne sera jamais d'accord avec nous. Pourtant, c'est vrai, Dieu nous a dit, il dit en Luc 11, 9, il nous dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et c'est une action qui, moi, j'aime à le dire, doit être menée premièrement dans la présence de Dieu. On peut demander aux hommes. Il n'est pas interdit cela. Mais laissons-nous conduire par Dieu. Comme ça, il nous montrera vers qui aller, à qui demander, à la porte de qui frapper, vers qui chercher. Mais je dis que premièrement, c'est dans la présence de Dieu qu'il faut chercher. Cette action donc que Dieu nous invite à faire, c'est dans sa présence qu'il faut le faire. Demander à Dieu, frapper à la porte de Dieu, chercher auprès de Dieu, dans sa présence. Et Philippiens 4, 6 nous dit, « Ne vous inquiétez justement de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. » Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que pour moi, la première action de demander, chercher et frapper, ça consiste premièrement à le faire, mais auprès de Dieu, à s'adresser à Dieu, à vouloir que les choses du royaume des cieux viennent à nous, que les bénédictions du royaume des cieux viennent à nous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il y a un royaume qui doit se manifester, le royaume des cieux, là où il y a des bénédictions en abondance pour nous. Et nous devons aller chercher ces bénédictions. Nous devons aller les chercher, bien-aimés. Elles ne viendront pas toujours à nous si nous ne faisons rien. La foi, nous devons la manifester face à nos besoins et demander à notre Dieu de nous envoyer ses bénédictions. Car Dieu nous a fait la promesse de nous bénir. Et en Christ, il est dit, nous avons déjà tout reçu pleinement. Tout, tout est en Christ Jésus. Alors, il dit, justement, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais vous voyez, des prières, des supplications, des prières et des supplications, en rendant grâce à Dieu. Même si ça fait 10 jours, 20 jours, 1 mois, 2 mois que je vais dans la présence de Dieu et que je supplie Dieu, ouvre les écluses des cieux sur ma vie, laisse descendre cette bénédiction, Seigneur, mais que je n'oublie pas de lui rendre grâce. Mais je te remercie car tu es un Dieu fidèle. Il y a un jour que tu as fixé, cette bénédiction viendra dans ma vie. Je le crois et je te rends gloire d'avance. Que le Dieu suprême soit glorifié. Alors, le royaume des cieux, on va le voir, s'il est dit qu'il doit, lorsque Jean le Baptiste et Jésus parlaient du fait que ce royaume devait venir et qu'à leur époque, quand ils annonçaient cette parole, ce royaume n'était pas encore là, on va voir quand même qu'il y a une manifestation de ce royaume qui est déjà sur la terre. Il y a quand même une manifestation de ce royaume qui est déjà sur la terre. La parole de Dieu nous dit en Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, donc il est bien question du royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. On a bien vu que l'homme ne peut pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas seulement le manger et le boire, mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et regardez ce qu'il est dit ensuite. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et celui qui sert Christ dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Il manifeste le royaume de Dieu sur la terre. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Lorsqu'il fait ça, il manifeste déjà une partie, une notion, un aspect du royaume de Dieu. Il sert Dieu dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Il manifeste le royaume de Dieu, donc, sur la terre. Apocalypse 1:6 nous dit ceci. À celui qui nous aime, c'est-à-dire Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, le Christ Jésus, et qui a fait de nous un royaume. Il n'est pas dit qu'il fera de nous. Il est dit, il a fait de nous. Il a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume pour Dieu. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et regardez ce qui est dit lorsque Jésus, parlant aussi aux scribes et aux pharisiens, qui lui posaient la question, « Mais quand viendra ton royaume ?» Jésus même a dit, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Ce que Jean-Baptiste lui-même avait dit. Et les pharisiens lui posent la question, mais justement, ce royaume qui doit venir, quand viendra-t-il? Jésus va leur répondre ceci, en Matthieu 12, 28. Il dit, parce qu'on lui avait fait le reproche qu'il chassait les démons par Belzébul. On lui avait dit, ce que tu fais là, c'est le prince des ténèbres qui te donne ce pouvoir. Alors, il leur dit, après leur avoir expliqué certaines choses, il veut leur faire comprendre, c'est par le Saint-Esprit et non par Belzébul. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, en fait, il est en train de leur affirmer et attester que c'est par l'Esprit de Dieu qui chasse les démons. Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Qu'est-il en train de leur dire? Le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est déjà en train de se manifester au milieu de vous. Ce royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la présence de Dieu même au milieu des hommes, parce qu'il était là. Il manifestait les œuvres de Dieu par le Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il leur dit, ce que je suis en train de faire, je manifeste les œuvres de mon Père par le Saint-Esprit. Cela est la preuve que le royaume de Dieu est là au milieu de vous. Donc le royaume des cieux se manifeste déjà en partie sur la terre. Ce royaume qui devait venir, il est déjà là et il se manifeste en partie. Naturellement, il y a tout ce que nous ne connaissons pas et que nous attendons de voir de ce royaume quand nous serons réellement dans l'éternité. Mais dans notre vie ici-bas, il y a déjà une partie de ce royaume qui se manifeste. Il leur a dit, le royaume de Dieu est donc. Il est en train de leur dire, parce que je suis en train de manifester les œuvres de mon Père par le Saint-Esprit, cela est la démonstration que le royaume de Dieu est au milieu de vous, présentement. À l'instant où je vous parle, le royaume de Dieu est donc déjà là. Et le roi David, lorsqu'il va faire toutes ses préparations pour la construction du temple d'Israël, pourtant ce temple n'était qu'un temple de briques, un temple de briques et de pierres et de tous les matériaux de l'époque avec lesquels il allait être construit. En 1 Chronique 29.1, regardez ce que le roi David dit. Il dit, le roi dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, est d'un âge faible, et l'ouvrage est considérable. » Regardez ce qu'il dit. « Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. » David, c'était un homme vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était aussi prophète. Il ne considérait pas que c'était un ouvrage terrestre et humain. Il était conscient que le temple qui allait être construit allait permettre au Dieu suprême de se manifester. Ça allait être vraiment le temple où Dieu allait venir se manifester en faveur du peuple d'Israël. Il dit, ce temple-là n'est pas pour l'homme, mais pour l'éternel Dieu. Il dit, moi, je ne construis pas un temple pour les hommes. Je ne suis pas en train de faire un bel ouvrage. Mon fils ne va pas faire un bel ouvrage juste pour les hommes. Je suis en train de préparer un temple pour que le Dieu des cieux, pour que le royaume des cieux vienne se manifester sur la terre, au sein de ce temple et de ce peuple d'Israël. Alors, qu'en est-il pour nous? Si lui, David, parlant d'un temple de briques et de pierres, disait que c'était un temple pour Dieu et non pas pour les hommes, que nous dit Dieu en ce qui nous concerne? 1 Corinthiens 3:16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, là où Dieu réside? Nous avons en nous, nous sommes la résidence privée de la divinité, de la plus haute divinité et la seule qui existe, le roi tout-puissant de gloire qui a créé les cieux et la terre. Et parce que nous sommes sa résidence par le Saint-Esprit, son royaume se manifeste à travers nous déjà sur cette terre. Ce royaume qui avait été annoncé et que nous attendons, en partie se manifeste déjà sur la terre. Et nous devons désirer que ce royaume se répande de plus en plus sur la terre, pour remplir toute la terre, pour que tous les hommes et toutes les femmes de ce monde deviennent aussi des temples pour Dieu par le Saint-Esprit. Et 1 Corinthiens 6, 19, 20 nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Nous sommes la résidence privée par le Saint-Esprit du Dieu qui a créé les cieux et la terre. En nous et à travers nous, il manifeste déjà son royaume sur la terre. Alors, ce que chacun de nous doit se poser comme question, éternel Dieu, est-ce que tu es content? Es-tu heureux de la manière dont ton royaume se manifeste à travers moi sur la terre? Est-ce que lorsque tu m'observes, est-ce que lorsque tu me regardes, est-ce que tu prends plaisir à voir comment ton royaume se manifeste en moi sur cette terre? C'est ça qu'il nous faut chercher. Ce royaume qui était annoncé se manifeste déjà en nous et à travers nous. Mais Dieu agrée-t-il vraiment la manière dont ce royaume se manifeste en nous? Nous voulons que Dieu soit heureux. lorsqu'ils nous regardent, qui prennent plaisir et qui disent oui, à travers cette fille, à travers ce fils, je peux manifester mon royaume de manière puissante dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alors, en Luc 17, 20, il est dit, des pharisiens vont aussi demander à Jésus, justement, quand viendrait son royaume. Et Jésus dit, mon royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. Mon royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de faire toutes sortes de choses pour attirer les regards sur nous. Nous n'avons pas besoin de faire ça. La personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va attirer à elle les âmes. Ou l'Esprit de Dieu va la conduire là où elle doit aller pour que le royaume de Dieu en elle puisse se manifester et se répandre sur la terre. Nous n'avons pas besoin de gesticuler, de faire plein de choses. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Et là, il parlait surtout de sa prochaine venue. Il a dit que, justement, parce que les hommes, ils attendent toujours des fois de grandes manifestations pour croire en quelque chose. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas reçu Jésus, parce qu'ils attendaient un roi qui viendrait d'une autre manière que de la manière aussi humiliante par laquelle il est venu. Allez, ils n'ont pas reconnu que c'était le roi de gloire. Et il dit, pour ma prochaine venue, c'est pareil. Mon royaume ne viendra pas de manière à frapper les regards. Et nous aussi, nous n'avons pas besoin de nous agiter. Cherchons surtout à être remplis de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous fera que le royaume de Dieu en nous pourra se manifester puissamment là où le Saint-Esprit voudra que ce royaume se manifeste. Et je termine par 1 Chronique 29, 18. C'est ce que David a pu dire dans sa prière quand il s'adressait à Dieu dans le cadre de la préparation de ses matériaux pour la construction du temple. Il dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac » et de Jacob. Et c'est une prière que nous pouvons faire, chacun de nous ce soir. Nos pères, Abraham, Isaac et Israël, nos pères, il dit « maintiens toujours dans le cœur de ton peuple. » Et c'est ce que nous devons dire. « Seigneur, maintiens dans mon cœur, toujours et à jamais. Maintiens dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées et affermis son cœur en toi. » À ce moment, ils avaient de bonnes dispositions pour Dieu et pour faire les choses de Dieu, pour bâtir ce temple, pour servir Dieu dans la consécration. Ils avaient de bonnes dispositions. Seigneur Dieu, Christ Jésus, maintiens notre cœur toujours, nous aussi, dans de bonnes dispositions. Et je rappelle le titre de mon message, la révélation du royaume des cieux sur la terre. La révélation du royaume des cieux, c'est à travers nous. Dieu se manifeste en nous, par nous, à travers nous, par le Saint-Esprit, et il veut que son royaume soit vu sur cette terre, et c'est par nous que ce royaume doit être vu. Seigneur Jésus-Christ, notre roi et notre Dieu, chef suprême de ton Église, nous voici les sujets de ton royaume, prêts à t'obéir, prêts à nous mettre en marche selon la direction de l'Esprit Saint, afin que ton royaume se répande, Seigneur, par chacun de nous, à travers chacun de nous. Nous nous abandonnons, Seigneur, à toi ce soir, afin que tu diriges toutes choses pour ta seule gloire. Que ton nom soit béni, Christ roi, et célébré au siècle des siècles.